Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 2 mars 2024, Son de cloche est heureux d'accueillir deux personnes, mais en fait ce sera trois. Deux personnes qui maintiennent le lien entre la France et le Québec. Leur rôle est d'autant plus remarquable que dans le monde où beaucoup de publicité se fait pour dresser des murs entre des États, des communautés ou des peuples, la grande visite que nous avons aujourd'hui nous fait honneur et plaisir. Nous avons l'opportunité, la chance d'accueillir M. Jean Lefebvre et M. Paul Lacasse. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Paul.
Bonjour Augustin.
Mais avant, nous avons une activité à l'Université Laval. Et j'ai l'honneur d'accueillir un très vieil ami qui va se présenter lui-même.
Alors bonjour. Moi, je suis, oui, le vieil ami d'Augustin, qui se nomme Fernand Dumont.
C'est ça.
Pas le célèbre de l'Université Laval, mais quand même, j'ai pas honte de porter le même nom. Et puis, c'est juste pour vous dire que, suite à cette émission, qui va sans doute être fabuleusement intéressante, faut pas oublier qu'en cette fin de semaine, se déroule au Pavillon des Jardins la fête des semences et de l'agriculture urbaine à Québec. Donc, vous cherchez une occasion de sortir dehors après l'événement, après avoir écouté l'émission de mon ami Augustin, vous pouvez facilement avoir accès au pavillon. L'autobus vous laisse à l'entrée et le stationnement en face du pavillon des jardins est gratuit la fin de semaine. Donc, le 2 et le 3, fête des semences pour tous ceux qui ont le goût printanier de rêver à la prochaine année de culture, de plantes, de fleurs à l'extérieur, en dedans, avec toutes sortes de techniques, et se procurer des semences aussi. La plupart des semenciers professionnels, mais locaux du Québec, sont là pour offrir aussi plein de produits. Si vous voulez des semences originales, c'est un merveilleux lieu. Alors, je laisse là-dessus mon Augustin à son émission. Merci et bienvenue à la fête des semences et de l'agriculture urbaine à tous ceux qui voudront prendre l'air aujourd'hui.
Merci beaucoup, Fernand. Alors, nous allons continuer l'émission par une présentation de nos invités du jour. Commençons par M. Lacasse. Hein? Non, M. Lefebvre. Oui, oui. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par le président. Le président de l'association Québec-France. Hein? Québec-France-Québec.
Voilà.
Ah, c'est ça. Et n'hésitez pas à me reprendre si jamais ce n'est pas complet. Voilà. Alors, monsieur Lefebvre est donc président depuis le 14 février 2016. La date de la première assemblée générale de cette entité juridique créée le mois précédent. À ce titre, il est également administrateur du réseau Québec-France-Francophonie depuis 2016. Je ne sais pas si j'ai bien lu, tout est correct.
C'est bien ça.
Monsieur Lefebvre a obtenu un baccalauréat en relations internationales de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval en 1970, on dirait au Cameroun, en 1900, longtemps. De même qu'un baccalauréat de la faculté de droit de cette même université en 1987. Il a été membre du barreau du Québec de novembre 1989 à mars 2004, mois de sa démission lorsqu'il a pris sa retraite. Il détient également une maîtrise en administration publique. On ne prête qu'aux riches. Hein. Il détient donc également une maîtrise en administration publique de l'ENAP, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en management international de la même grande école. Il a été, au cours des années, membre de la direction de 3 autres organismes. Il est encore membre de la direction de 2 d'entre eux. Alors, si jamais vous voulez savoir lesquels, rapprochez-vous de M. Lefebvre, qui est un homme essentiellement avenant. L'un de ces organismes a donné des sommes substantielles à la fondation de l'Université Laval et de très nombreux documents de grand intérêt aux archives de l'Université Laval, de même qu'aux Archives nationales du Québec, particulièrement à la Cinémathèque québécoise. Monsieur Jean Lefebvre a accompli sa carrière dans la fonction publique du Québec. Il y en a qui se sacrifient. Vous en connaissez un aujourd'hui. Il a travaillé dans le domaine de la gestion du personnel et du droit. Passons maintenant à Monsieur Paul Lacasse. Monsieur Paul Lacasse, lui, est né à Honfleur, Bellechasse. Si ça vous paraît musical et artistique, vous aurez des preuves de ça tout à l'heure. Parce que ne naît pas à Honfleur qui veut. C'est sur la rive sud de Québec, un endroit essentiellement poétique. En 1900, on va dire 1900 longtemps. Homme de terrain, les grands espaces des contreforts des Appalaches ont forgé son amour de la nature. 10 années d'enseignement en divers endroits du Québec lui ont permis d'éveiller le goût de la lecture et de l'écriture chez les jeunes. Et après une carrière au gouvernement du Québec, un autre sacrifié, il revient à l'écriture pour partager son amour des images et de la poésie. Nous allons le vérifier aujourd'hui. Bourlingueur passionné depuis plus de 50 ans, Paul Lacasse est enseignant et géographe de formation. Sans cesse en mouvement et réfléchi à la fois, il n'a jamais voulu laisser sa retraite du monde gouvernemental le plonger dans l'immobilisme. Amoureux de l'écriture pour son propre plaisir, il a voulu perfectionner cet art en côtoyant des collègues aux ateliers de poésie de l'Université du Troisième Âge. L'Université Laval. Ce fut le coup de pouce nécessaire pour amener ses essais de fond de tiroir jusqu'à la publication. D'abord, sous des auspices de Bouquinbec en 2019 avec des sentiers ombragés et en 2020 avec l'archipel du rêve, puis avec les... Pardon. Puis... avec les éditions de la Francophonie en février 2021 pour Errance fluviale, un quatrième recueil mariant art et poésie aux saisons du cœur est paru en août 2021. Ses écrits explorent entre autres les thèmes de l'enfance, de l'amour, de la vie, du rêve et de la nature. Avec l'été interdit, l'auteur entre cette fois-ci dans un monde plus concret, plus contemporain et plus engagé. Cette publication se veut une participation au débat public actuel dans une société plutôt cacophonique et elle souhaite déposer un rayon d'espoir sur les pages noircies d'une confrontation sociale empreinte de profondes divisions et contribuer ainsi à faire de la poésie un agent de changement rassembleur. Écoutons Augustin Béchy, Testament.
Je dirai mon testament. J'ai toujours marché une une chanson aux lèvres, et c'est en chantant que je dirai mon testament. J'aimerais que tu prennes la main que je te tends, même après ma mort, c'est ça mon testament. J'aimerais tant que tu prennes la main que je te tends, même après ma mort, c'est ça mon testament. Aujourd'hui que j'ai vécu et que je dois m'en aller, comme tout le monde, je dois faire, je dois dire mon testament. Aujourd'hui que j'ai vécu et que je dois m'en aller, comme tout le monde, je dois faire, je dois dire mon testament. Laisse pousser les fleurs et fais grandir les arbres, donne ton amour à tous, c'est ça mon testament. Fais comme la colombe, garde toujours la paix, prends le rameau d'olivier en guise d'étendard. Prends le rameau d'olivier en guise d'étendard. Lutte contre la misère et combat le mal partout. Donne le meilleur de toi, c'est ça mon testament. Donne le meilleur de toi, c'est ça mon testament. Aujourd'hui que j'ai vécu et que je dois m'en aller, comme tout le monde, je dois faire, je dois dire mon testament. Je veux assécher toutes les larmes, pour cela abolir les armes. Oui, je préfère rêver au lieu de désespérer. Regarde le bien et bien, il fait tellement de bien, c'est pourquoi il est bien que tu fasses le bien. Regarde comme le bien est bien et comme il fait tellement de bien, c'est pourquoi il est bien que tu fasses le bien. Je voudrais que mon chant, comme celui des anges, porte l'amour divin dans tous les cœurs humains. Je voudrais que mon chant, comme celui des anges, dise l'amour de Dieu dans tous les cœurs humains. J'ai toujours marché une chanson aux lèvres, et c'est en chantant que je dirai mon testament. Oui, c'est en chantant que je dirai mon testament. Et c'est en chantant que je dirai mon testament. Et c'est en chantant que je dirai mon testament.
Alors on va commencer avec Monsieur Lefebvre par faire connaître l'association. Excusez. Alors nous allons commencer donc par Monsieur Lefebvre par faire connaître l'association et le réseau.
Alors, bonjour.
Oui.
Merci d'abord, avant
D'entreprendre mon propos, je désire vous remercier très chaleureusement, M. Becci, de nous offrir, à mon compagnon et à moi, le privilège de pouvoir nous adresser à la communauté universitaire de Québec.
Merci beaucoup.
J'en profite pour saluer le corps professoral, les employés et les dirigeants de l'université, qui est mon alma mater. Je veux aussi saluer tout particulièrement les étudiants et les étudiantes en résidence ici à l'Université Laval, parce que j'ai connu ça il y a 57 ans. Ça ne me rajeunit pas. Mais je sais c'est quoi la vie en résidence et, comme ma grand-mère disait, ce n'est pas tous les jours l'extase. Alors, je veux simplement exprimer mon appui tout amical dans la poursuite et la finalisation du parcours très courageux que vous avez choisi comme étudiant à l'Université Laval. Au cours de l'émission, on va parler beaucoup d'amitié. L'amitié, c'est un mot simple de 6 lettres, mais qui est tellement chargé d'intensité. Alors, je suis président de l'association Québec-France-Québec, mais cette association-là fait partie d'un réseau québécois qui se nomme Réseau Québec-France-Francophonie. C'est un réseau qui regroupe 17 associations comme la mienne dans toutes les régions du Québec. Le réseau Québec-France-Francophonie a une jumelle en France, qui est la Fédération France-Québec-Francophonie, qui, elle, compte 62 organisations régionales ou locales comme les nôtres. C'est né quand, cette organisation-là, quelle est sa raison d'être, quelle est sa mission? On peut dire que au départ, les deux réseaux s'appelaient l'Association France-Québec et l'Association Québec-France. Ces deux jumelles-là sont nées dans un contexte assez particulier. La fin des années 60 a fait en sorte que le général Charles de Gaulle est venu au Québec à l'Expo 67. À l'époque où le Québec, en raison de cette grande fête qu'on avait organisée à Montréal, s'est ouvert au monde. De Gaulle est venu au Québec faire une déclaration qui a mécontenté certains gouvernements, mais qui en a réjoui d'autres. Et à la suite de cette déclaration-là qui a fait du bruit à l'époque, sont nés plusieurs accords entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française. Le 17 septembre...
Excusez, M. le Président. Oui? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il y a des racines et la raison d'être de l'association?
Voilà, tout à fait.
OK.
Le 17 septembre, donc quelques semaines à peine après la visite de De Gaulle ici à Québec, la France et le Québec signaient les accords Johnson-Perfitt. Johnson était le premier ministre à l'époque du Québec et Alain Perfitt était le premier ministre de la République française. On suivit presque immédiatement au lendemain de ces accords-là, deux autres accords très, très importants qui ont créé des liens entre la France et le Québec. Le 9 février 1968, on créait l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et en même temps, on signait un autre traité d'échange d'étudiants, de scientifiques et de formateurs. À la lumière de tout ce développement assez particulier entre un gouvernement qui est celui de la République française et une province du Canada, il y a eu une espèce d'effervescence qui est née à ce moment-là, qui a surgi. Une initiative de Charles de Gaulle a fait que la France et le Québec ont créé une relation directe et privilégiée. le général de Gaulle a communiqué avec le consul général du Québec, le consul général, pardon, de la France à Québec, M. Pierre-Bernard-Marie de Menton, et lui a dit, désormais, dans vos relations avec le gouvernement du Québec, vous ne passez plus par le ministère des Affaires étrangères de France ni par l'ambassadeur de France au Canada. Vous transigez directement à la condition que vous informiez du contenu de vos échanges le Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères de France. Quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires étrangères de France, Couve de Murville, avisait l'ambassadeur du Canada à Paris que désormais, son gouvernement ne passerait plus par l'ambassade du Canada à Paris, mais directement communiquerait avec le gouvernement du Québec par la délégation générale du Québec à Paris. Alors, ça a fait du bruit beaucoup à l'époque. Et ça créait ce qu'on appelle cette relation directe et privilégiée. Donc, ce n'est pas des mots, c'est une réalité politique et diplomatique. Ce n'est pas une expression.
Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que vous êtes un représentant diplomatique?
Non. Non, parce que le général de Gaulle a voulu attacher à ça, cette relation-là, une participation citoyenne qui était dans sa vision, qui serait intense et structurée. Il voulait que se crée une participation à cette relation par le développement de faisceaux, de réseaux de relations. Alors, dans cette foulée-là, du côté de la France, s'est créée l'Association France-Québec avec une soixantaine de ses organismes locaux et régionaux. 3 ans après, au Québec, est arrivée la création de l'Association Québec-France qui devenait la jumelle de l'Association France-Québec. Alors, ça a permis de structurer des relations entre les citoyens, entre les organisations municipales, les institutions d'enseignement, les organisations du milieu de chacune des sociétés françaises et québécoises. Et de multiples relations se sont créées à ce moment-là. Le sel de la terre on pourrait dire ça comme ça. Le sel de la terre, l'huile qui fait fonctionner de toute cette organisation, ce sont des liens d'amitié. Les organisations sont devenues des passerelles d'amitié entre la France et le Québec pour les citoyens. Alors, on a permis aux citoyens de se rencontrer en créant des occasions de le faire. Les citoyens se sont connus, se sont compris, ils ont fait connaissance, ils se sont fait confiance et après ça, ils se sont associés dans des initiatives et dans des entreprises, des programmes qui ont enrichi davantage encore les relations entre les deux nations. Voilà la place des deux associations, des deux réseaux. C'est une participation citoyenne à la relation directe et privilégiée entre la France et le Québec. Voilà la situation où on est.
C'est ça. Est-ce que ces activités, ces actions sont encadrées de façon contraignante?
Dans une certaine mesure, oui. Parce qu'il y a des financements qui sont attachés à cela. Mm-hmm. Les deux gouvernements ont créé à cette époque-là des secrétariats de chaque côté de l'Atlantique et des financements qui ont duré plusieurs décennies. Et les financements, évidemment, étaient contraignants en soi. Et aujourd'hui, depuis en 2015, ces financements-là se sont transformés en financement de projets soumis par les deux réseaux. Alors, ça soutient les programmes des deux réseaux, mais c'est un financement par projet et non pas un financement par des secrétariats, comme c'était le cas jusqu'en 2015. Alors, il y a une certaine contrainte, là.
OK. Nous sommes ici dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Et après la transition musicale suivie de la pause publicitaire, nous allons écouter M. Paul Lacasse. Mais pour le moment, commençons par une transition musicale.
Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Oui, Monsieur Lacasse, est aussi un gros joueur de l'association dont vient de parler le président Lefebvre. Puisque nous sommes, comme je disais, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, M. Lacasse aura des interventions à deux niveaux. C'est quelqu'un qui... C'est un auteur, en plus d'être un dirigeant, un leader d'organisation. M. Lacasse...
Oui, bonjour Augustin et bonjour toute la communauté universitaire. Je précise d'abord que si Jean est président de Québec-France-Québec, moi je suis président de Québec-France-Rive-Droite, c'est-à-dire le Grand Lévis, fusionné maintenant depuis 2002, et il y a une troisième association, Jean-Cartier-Portneuf. Donc c'est dans la région de la capitale, nous sommes très actifs et on partage aussi les mêmes activités et les conférences dans l'une ou l'autre des trois associations. Pour ma part, je suis aussi auteur. Depuis 2019, j'ai décidé de publier. Alors, j'ai avec moi ici quelques extraits de mes 6 recueils papier. J'ai fait également, je vais commencer par un recueil qui est resté numérique sur la ville de Québec. Alors, tout seigneur, tout honneur. Donc, on parle des relations Québec-France, même si c'est Québec, la province de Québec en général. Je commence par ma ville. Ça s'appelle Québec, ville de grandeur. Québec, ville de grandeur, terre d'histoire et de découverte. Au pied de tes falaises escarpées, dans des anses brodées d'oiseaux blancs, roulent tes flots déterminés, au bout de quai, aux fantômes vaporeux, où trépignent des canaux remplis de rêves, cousus dans l'écorce des légendes. Voilà, c'est tiré de Québec en poésie, qui avait été publié l'an dernier pour le mois de mars, un poème par jour, pour le mois de mars, le mois du français, de la francophonie. Et vous pouvez lire l'ensemble du recueil à l'hôtel Château-Laurier à Québec.
Ah, merci beaucoup. Écoutons, pour compléter ça, Claude Gauthier, Le plus beau voyage.
C'est le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie, j'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roche et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table, je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril.
je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile. Don Gava à Manicouagan.
Continuons avec le président Jean par parler de l'association.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était.
Parler de l'association du réseau Québec-France, les grandes lignes, fondation, fondement, mission, programme.
Alors, rebonjour. Mm-hmm. On a parlé d'amitié tantôt, on a parlé de rencontres. Comment se concrétisent les rencontres entre les citoyens français et les citoyens québécois? Comment on organise, quelle occasion on offre à ces personnes-là de la population de se rencontrer? Il y a différentes activités qui sont organisées par les deux réseaux. D'abord, à tous les deux ans, un congrès commun des deux réseaux est organisé alternativement au Québec et en France. Ce congrès réunit plusieurs centaines de personnes pendant trois jours qui discutent de programmes en cours, de programmes qui pourraient être éventuellement créés, de l'évolution du mouvement et des réalisations, etc. Le premier de ces congrès-là a eu lieu à La Rochelle en 1979 et le dernier a eu lieu à Bordeaux en octobre 2022. Ces congrès ont beaucoup d'importance, car les présidents des associations régionales françaises et québécoises se rencontrent. Et les citoyens des deux États ont l'occasion de fraterniser, surtout de se parler, de se comprendre et d'organiser des activités comme des voyages dans le pays de l'autre. Ces congrès-là, de ces congrès-là, naissent beaucoup de propositions qui sont étudiées par la suite par les deux réseaux et certaines ont été mises en place. Certains programmes ont été mis en place et proviennent de la suggestion populaire lors de ces congrès.
Oui, Jean, au-delà de l'amitié, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui intéressent la vie des gens?
Oui. Oui. D'abord, il y a des voyages qui sont organisés, à certaines années jusqu'à deux fois par année, qui amènent des Québécois en France et des Français ici. Alors, qui visitent le Québec et qui visitent. Alors, pour les personnes, c'est des occasions de loisirs et de voyages.
Par exemple, est-ce qu'il y a une intégration mettons, des étudiants français au Québec, une facilitation des Français pour les emplois au Québec. Est-ce qu'il y a des choses de ce genre qui se font?
Nous, on n'est pas dans ce domaine-là.
OK.
On est dans le domaine de programmes, par exemple, d'échange. Alors, il y a des jeunes qui sont échangés entre les municipalités. On appelle ça le programme intermunicipalité. On a envoyé jusqu'à 50 à 60 jeunes par année. Les villes qui sont désireuses d'échanger des jeunes qui habitent sur leur territoire s'inscrivent au programme. Les jeunes s'inscrivent également au programme et les villes sont comme
jumelées
en partenariat et ils s'échangent les étudiants. Comme par exemple à Québec, les étudiants vont généralement à Bordeaux et les jeunes de Bordeaux viennent à Québec. Alors, ça, c'est un des programmes. Un autre programme, c'est le programme des vendanges. Alors, le programme des vendanges permet aux Québécois d'aller en Bourgogne ou dans le Bordelais faire les vendanges à l'automne. Alors, ça permet aux jeunes de se familiariser avec la France, avec la situation des agriculteurs français.
OK. Écoutons Jacques...
C'est un exemple.
Écoutons Jacques Brel, puis ça va être un poème de Paul. Oui. Et puis on te revient, Jean.
D'accord. Mm-hmm.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps.
Paul Lacasse, à son de cloche, un jour de mai.
Alors, bonjour, Augustin. Ça peut faire drôle de faire jouer le printemps comme ça, ce matin, mais il y a 3 jours, ça aurait été parfait. Et puis, dans deux jours, ça va être encore le cas. Alors, le climat change radicalement. Et déjà, dans certaines régions, c'est le printemps, on entaille les érables. Alors, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle elle introduit, en fait, l'effervescence des programmes de Québec-France et des échanges entre la France et le Québec. Et des programmes qui sont réservés aux jeunes. Il y en a pour tous les âges et voilà, c'est un peu un enthousiasme d'aller découvrir le pays d'en face, comme on appelait. Alors, pour lecture, j'ai choisi « Un jour de mai ». C'est tiré de mon premier recueil « Des sentiers ombragés », qui est très, très en accordance avec la chanson de Jacques Brel. « Un jour de mai, c'est l'hiver qui rend les armes ». C'est le dernier lambeau de neige dans le creux ombragé d'un sous-bois. Un jour de mai, c'est le temps froid qui vient prendre un bain de soleil. Mai, et c'est la sève qui monte, c'est la vigueur qui fendille les vieilles écorces et les bourgeons qui jouent à se dévêtir. Mai, c'est l'impatience qui devient vertu. Un jour de mai, c'est une fée qui ranime les ardeurs endormies. Ce sont tes yeux comme un appel, puis nos secrets dans les sous-bois. Un jour de mai qui s'illumine, tu reverdis, je revis et tout change.
Merci beaucoup, Paul. Maintenant, tu reprends ta casquette de leader pour nous parler des programmes de l'association. Voyage découverte du prix littéraire MCB, des intermunicipalités, Tourismo, Slam Poésie.
Alors Jean vous a déjà très bien introduit aux activités de Québec-France. Et ce qui est important, c'est que le premier fondateur, M. Yves Guérard, en collaboration avec le gouvernement du Québec, voulait, comme tu posais la question tout à l'heure, que ce soit des actions concrètes. Alors, il a voulu qu'on travaille pas seulement dans les échanges de vin et fromage, quoique c'est très agréable, mais en même temps sur, par exemple, les domaines de la science, de l'éducation, de la culture et des techniques de l'information. Alors, il y a eu, entre autres, des échanges d'enseignants dans le passé. Et des projets reliés aux techniques de l'information, notamment, faut penser que la création de TV5, mais c'est une œuvre qui découle de la création de notre association. Dans les programmes plus concrets, alors Voyage découverte, c'est un... On se reporte à l'époque, en 68, on découvrait le monde, et le monde, pour nous, c'était la France. Maintenant, c'est vraiment tout le monde, et pour les jeunes aussi. Mais à l'époque, c'était assez exclusif. On pouvait aller à Paris pour 99 $ avec l'agence de voyage Tourbec, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'était vraiment une occasion de découvrir les différentes régions de la France.
Un peu d'humour. Pourquoi Tourbec ne peut plus de
Parce
offrir?
Qu'il n'existe plus et que les coûts ont changé radicalement.
Bon, parce que la question que j'allais poser pour taquiner, c'était est-ce que notre association ne peut pas suppléer offrir des voyages de 99 $?
Ah, ça, c'est impossible.
Il faut poser la question à M. Lefebvre. J'ai en face de moi deux présidents. Et à son de cloche, on rêve de temps en temps. Bon.
Alors, je poursuis donc pour le prix littéraire. On a aussi, on met à contribution nos 17 régionales. Mm-hmm. Il y a trois romans français. Le prix Québec-France Marie-Claire Blais accorde à chaque année un prix littéraire. Il y a une bourse du consulat et puis un voyage du représentant de la France au Québec. Et du côté de la France fait un concours pour les auteurs québécois qui vont là-bas. Par exemple, Jocelyne Saussier, Il pleuvait des oiseaux. Le poète Bise, ben c'est deux des vainqueurs de ce prix littéraire. Et on était à peu près 160 personnes dans le réseau à travers les régionales à lire ces romans et à attribuer notre évaluation. Et il y aura justement le dernier sera couronné bientôt, je pense c'est au mois d'avril. Céline Rigui qui a écrit un livre sur ce qui se passe dans les mines dans la région de l'Alsace et de la Lorraine. Oui, Jean, tu avais...
Oui, c'est ça.
C'est bon?
C'est, son livre s'intitule « Berlin » et ça raconte l'histoire d'un mineur qui reste pris, justement, coincé dans une mine et qui a peur d'y laisser sa peau, de sorte que... pendant son temps d'anxiété, quand on voit la mort de près, on fait le bilan de sa vie. Alors, le roman porte sur Fernand qui fait le bilan de sa vie.
C'est très intéressant et c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça captivant. Je poursuis avec deux programmes, Tourismo, Islam, Poésie. Alors, vous avez vu, bon, moi, je fais de l'écriture. Il y a le prix littéraire Marie-Claire Blais. Donc, on accorde à Québec-France et à France-Québec une grande attention à la langue, à l'écriture. Alors, Tourismo, c'était autrefois, il y avait la dictée de Québec-France, comme il existe la dictée Gérin-Lajoie. Maintenant, on est passé à quelque chose de plus vivant, plus ancré dans le réel, moins scolaire. Alors, ça a commencé dans une région qui a dit, moi, j'aimerais faire la dictée sur ma région. Alors, ça fait découvrir les régions du Québec. Donc, ça pourrait développer le tourisme. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça Tourismo. Et il y a des jeux linguistiques aussi qui sont associés à ça et qui se font dans nos régionales autour du 20 au 24 mars qui vient. À chaque année, d'ailleurs. Et l'autre programme, Slam Poésie. Mais ça aussi, c'est une façon moderne d'intégrer les jeunes dans le réseau. Hein, les concours de slam sont très populaires auprès de certaines écoles, dans certaines communautés de jeunes. Alors, il y a un grand concours. Et l'équipe gagnante au Québec, ici, va participer au grand concours en France et gagne un petit voyage là, en même temps qu'elle va faire sa prestation pour découvrir une partie de la France. Voilà, je pense que c'est, je ne vais pas m'attarder, mais vous montrer qu'on s'intéresse encore aujourd'hui à toutes les générations et beaucoup à l'aspect littéraire, à l'aspect de la mise en valeur du français.
Écoutons Diane Dufresne, hymne à la beauté du monde.
Tu m'en vas
écoutons Paul Lacasse, Parfum de tilleul.
Alors, ces programmes qu'on vient de vous décrire, ben, nous incitent à découvrir le monde et donc à voir les beautés du monde. Alors, dans mon deuxième recueil, L'archipel du rêve, Parfum de tilleul. Sous les odeurs capiteuses d'un tilleul, l'éclat des boutons d'or ravive la joie de nos insouciances passées. Le parfum de ces fruits rallume les papilles de nos tendres souvenirs. Le généreux gazouillis des pinsons émaille d'espoir la frange de nos tristesses.
Prenons une autre virgule musicale, suivie d'une pause publicitaire. Nous vous revenons tout juste après.
Mais quand est-ce que ça termine? Je me sens mal, je suis fatiguée. Toujours la même routine. Les jours sans fin. Les mêmes visages désabusés aux capitaines à chaque matin. Mais avec toi.
Chiz 94.3 FM à Québec.
On Moukelsit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosit. Anmukeosit, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben c'est ça pour toi. Écoute le monde d'Erika Sonneau, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique New Country, rap, reggaeton, EDM Club, sans oublier les découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est un rendez-vous!
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Oui, Jean, vous aviez des commentaires à faire sur les propos de Paul tout à l'heure.
Oui, il y a des précisions à donner sur certains programmes qui pourraient certainement intéresser les auditeurs. Mm-hmm. Par exemple, le programme intermunicipalité qui existe depuis 1982 nous a permis d'échanger 6 000 jeunes entre les municipalités françaises et québécoises. Et ça leur permet de faire un stage d'été de quelques semaines rémunéré. Et on fait ça en collaboration avec l'OFQJ dont je parlais au début de l'émission, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui subventionne la traversée, le billet d'avion pour traverser l'océan pour les Québécois.
C'est de quel âge à quel âge?
C'est en bas de 35 ans.
OK.
Alors, ça permet aux jeunes d'aller faire un stage là-bas qui dure à peu près 6 à 8 semaines, dépendant des
Est-ce que
des
vous
stages.
Avez laissé cette information à l'Université Laval, par exemple?
Ouais, les universités sont au courant,
okay.
Mais elles ont leur propre système
okay.
d'échange d'étudiants.
Mm-hmm.
Ça s'est développé après nous. C'est comme les échanges qu'on faisait de jeunes ont SME. Et les universités ont adopté ce mode d'échange des étudiants. On trouvait ça intéressant.
Okay.
Et puis, ça s'est fait. Il y a un réseau qui s'est créé entre les universités.
Je pose la question, c'est juste surtout pour savoir si, année après année, vous n'avez pas de temps en temps des places qui n'ont pas été comblées.
Oui, ça arrive. Ça arrive.
OK.
Mais,
et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
Bien. On envoie entre 50 et 60. On ne sait jamais exactement le nombre parce qu'il peut arriver qu'un étudiant, à la dernière minute, décide de ne pas venir.
Okay.
Ou encore qu'il y ait un étudiant qui, à la dernière minute, voudrait bien y aller. Sauf que c'est complexe parce que c'est des stages rémunérés et ça prend un permis de travail. Alors, il y a des complexités là-dedans. Ce qui fait que il arrive que des étudiants ne viennent pas. Il y a des stages qui sont comme manqués par les étudiants. Sauf que ça arrive assez peu. Habituellement, il y a tout un système de préparation, la demande des permis de travail, la demande des passeports, enfin, tout ce qui est nécessaire pour que ces jeunes-là puissent faire leur stage rémunéré dans le pays de l'autre. Alors, ça se produit d'une façon assez ordonnée. Et, la pandémie, évidemment, a un petit peu ébranlé le système parce que pendant 2 ans et demi, 3 ans, on n'a pas pu échanger. C'était confiné des deux côtés de l'Atlantique. Alors, les jeunes n'ont pas pu se déplacer. En 2020 en particulier, 2021, ça a été impossible carrément. En 2022, il y a eu quelques échanges. Et en 2023, un peu plus. Et là, on espère que ça va reprendre. L'autre...
Jean, excuse-moi, oui. J'ajouterais qu'à l'origine de la création de l'association, et on voulait que ça soit simple, les échanges, et ça l'était. Le Québec avait peut-être beaucoup plus d'emprise sur les programmes. Et au fil des ans, on pourrait dire qu'on s'est alourdi. L'administratif a pris beaucoup de place et l'administratif prend beaucoup de temps. Alors ici, nous, comme disait Jean, ça prend un permis aux jeunes. Et aux Français, pour venir ici, ça prend également une autorisation, alors le consulat. Finalement, on arrive très, très serré au mois d'avril et les stages commencent en juin. Alors il arrive effectivement que des jeunes ne puissent pas venir, soit parce qu'ils n'ont pas eu leur permis. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer tôt à l'automne. Généralement, au mois d'octobre, là, c'est un bon moment. Et on passe par les municipalités québécoises. C'est la porte d'entrée.
Si le système s'est alourdi, envisagez-vous de simplifier les procédures?
C'est en marche. On prévoit qu'en 2025, c'est parce que ces jeunes Français qui viennent ici, par exemple, ou les jeunes Québécois qui vont là-bas, ont été considérés présentement presque comme des immigrants ou comme des travailleurs annuels. Alors, ils viennent juste le temps d'un été. Alors, on veut resimplifier ça et le fédéral, semble-t-il, en 2025, pour 2025, va simplifier les procédures. Et ne pas traiter comme des travailleurs agricoles, par exemple. C'est simplement là, des jeunes qui veulent faire un échange de 6 semaines. Alors, il ne faut pas qu'il y ait autant de complexité. Alors, depuis 3 ou 4 ans, au Québec, on s'est ingénié à convaincre le fédéral qu'il fallait alléger les structures et ça s'en vient.
OK. Oui, Jean.
En ce qui concerne Turismo, dont parlait mon collègue Paul tantôt, l'importance de cette activité-là se situe dans le fait qu'elle est pendant la semaine de la Francofête et que c'est des maires. En chaque région, on change de région chaque année et c'est le maire du chef-lieu de cette région-là qui va donner la dictée. Alors, cette année, à titre d'exemple, c'est le maire de Gaspé, qui est en même temps président de l'Union des municipalités du Québec, qui va donner la dictée. Alors, c'est quand même quelque chose qui déborde le membership, si vous voulez, de l'association, qui fait intervenir les institutions sur le territoire du Québec. La même chose avec le slam poésie, ce sont les cégeps et les écoles secondaires qui viennent alimenter ce programme-là. Et les professeurs de français en particulier. Alors, on met en branle, si vous voulez, la population, les institutions pour que ces programmes-là puissent se réaliser. En ce qui concerne le prix Marie-Claire Blais, il y a beaucoup de choses à dire parce que, d'abord, le résultat net, c'est que ça fait connaître nos écrivains aux Français dans l'Hexagone et ça fait connaître les écrivains français aux Québécois. Là, c'est un gros avantage.
Parce que le prix Marie-Claire Blais, c'était une autre rubrique que vous avez prévu de développer tout à l'heure.
Ah, peut-être.
Oui.
Mais je voulais juste dire ça parce que c'est le fait que en faisant, en réalisant ce programme-là, non seulement on fait la promotion de la langue française, mais en même temps, on fait connaître nos écrivains et nos artistes ici. C'est assez intéressant pour la population. C'est concret pour eux. Ce sont les commentaires que je voulais faire additionnels parce qu'on on va parler du prix littéraire Marie-Claire Blais un peu plus en détail tantôt.
Exact. Écoutons une autre proposition de chanson de notre ami Paul, Raymond Lévesque. Quand les hommes vivront d'amour.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, et si bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Belle opportunité pour nous d'écouter une fois de plus notre ami Paul Lacasse, Seul sous vos yeux froids.
Alors, Augustin, je vais faire ici un petit changement.
OK.
En fait, j'avais trois poèmes qui parlaient du sujet que Raymond Lévesque vient de nous introduire, la guerre.
OK.
Et mon sixième recueil, il sera au Salon du Livre au mois d'avril, du 10 au 14 avril, au Centre des congrès à Québec. Alors, j'invite toute la communauté universitaire et tous les gens qui nous écoutent à venir prendre connaissance de ce recueil, « L'été interdit ».
OK.
Et j'ai choisi, pour illustrer le propos, sous les bombes, avec ce qui se passe à Gaza, mais aussi en Syrie et ailleurs, mais particulièrement en Ukraine et à Gaza. Sous les bombes. Imaginez-vous là, que vous êtes à Gaza ou quelque part dans une ville d'Ukraine, par exemple. Bruit des sirènes, appel du couvre-feu. Hâte, cris angoissés, yeux terrifiés. Dans les rues, des chassés croisés chaotiques. Course désordonnée pour trouver un abri sûr, pour fuir la folie meurtrière. Hébété par l'angoissante certitude que ça recommencera encore. Demain, aujourd'hui, cette nuit peut-être. Se recroqueviller en soi-même, tête contre les genoux. Sursauter à chaque pétarade, se boucher les oreilles, ne plus entendre, ne plus rien voir, oublier, certain de voir se répéter la parade infernale de l'horreur et de l'indifférence, se rendre insensible, se fermer, se murer pour ne plus entendre, devenir sourd à l'extérieur et sourd à soi-même, à ses alarmes, à ses sursauts, aux voisins qui pleurent et qui râlent, aveugles aux corps qui se figent, aux cris qui meurent dans les bouches ouvertes, aux regards qui ne voient plus, insensibles aux âmes qui s'envolent. Côtoyer les affres de la guerre comme un champ de ruines familier, marcher comme un fantôme à travers les débris.
Ah, quelle description
La guerre, c'est atroce, c'est incompréhensible, et pourtant, c'est encore très d'actualité.
Tout à fait, tout à fait. Jean, ramène-nous à la vie.
Je vais essayer. Alors, on va parler du prix littéraire Québec-France Marie-Claire. Il existe depuis une vingtaine d'années. Et l'auteur Marie-Claire Blais, de regrettée mémoire, a accepté de prêter son nom au prix que décernait l'Association Québec-France. C'est un prix qui est donné en réciprocité avec la Fédération France-Québec qui, elle, récompense un auteur québécois. Dans les deux cas, ce doit être le premier roman de la personne qui réside soit au Québec ou en France, alternativement, et qui
comment dire, qui est à son premier roman, qui réside sur le territoire français ou sur le territoire québécois. Bon. Où est-ce qu'on prend les livres? D'où viennent les livres qu'on fait lire à nos lecteurs? Du côté québécois, nous puisons nos livres au festival du premier roman qui se déroule chaque année au mois de mai à Laval, en France. Une fois le festival terminé, il y a un jury là-bas qui nous présélectionne une quinzaine de romans parmi les meilleurs qui ont été présentés au festival. Il les envoie comme suggestion ici. Ici, il y a un jury de présélection, un deuxième jury de présélection. Souvent, c'est un journaliste. Souvent, c'est des doctorants en création littéraire qui, parmi les 15, choisissent trois romans. Après coup, lorsque les trois romans ont été choisis, nous demandons à chaque association du territoire québécois, les 17, de constituer un comité de lecture. Donc, tous les membres peuvent participer au comité de lecture, c'est volontaire. Ceux qui participent lisent les trois livres. Il y a une grille de commentaires, de pointage, d'évaluation. Et le résultat global désigne la personne récipiendaire. Donc, la personne, il y a un communiqué qui révèle le nom de la personne gagnante. Et la personne vient ici. Son billet d'avion est payé. Elle vient ici faire une tournée au Québec pour faire la promotion de son livre et en même temps recevoir de façon officielle le prix de la part du consul général de France à Québec. C'est lui qui remet le prix. Cette année, ça va avoir lieu à la bibliothèque Monique Corriveau, ici à Québec, le 24 avril à 17 h. Alors, ce sera Mme, comme on disait tantôt, Mme Reggie avec son livre Berlin, qui est publié aux éditions du Sonneur, c'est un éditeur français, qui recevra le livre.
Petite question. Il y a beaucoup de billets d'avion qui circulent.
Oui.
Bon, ça doit coûter, parce qu'on a parlé tout à l'heure des 99 $ qui n'ont plus cours.
C'est ça.
Donc, ça devrait coûter un peu plus cher que d'habitude.
C'est ça.
Avez-vous un partenariat avec des compagnies aériennes?
Non, on a un partenariat avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse,
okay,
qui subventionne les billets d'avion.
Okay.
Dans nos programmes, autant l'intermunicipalité que la personne qui va aux vendanges, à la condition que la personne ait moins de 35 ans.
Bon. Avez-vous un partenariat avec des hôtels, puisque les,
oui,
personnes vont avoir un séjour plus ou moins long ici?
Oui. À Montréal, on a un hôtel qui est partenaire. Du prix. Ici, à Québec, c'est l'hôtel Château-Laurier. Okay. Sur la Grande Allée, qui reçoit pour une nuitée ou deux, gratuitement, la personne récipiendaire du prix.
Et avez-vous un partenariat avec des organismes de restauration? Parce que la personne, oui, qui vient ne va pas jeûner.
Bien, il faut dire, Augustin,
oui,
que le jeune, quand il va là-bas, il est à l'hôtel à Montréal et à Paris.
Oui.
Simplement le temps de passage.
Ah.
Parce qu'il s'en va dans une commune là-bas,
okay,
ici dans une municipalité, mm-hmm, et il est reçu généralement, à l'origine, le programme, c'était un échange réciproque. Moi, dans ma famille, par exemple, j'ai trois enfants, il y en a deux qui veulent aller à Paris,
mm-hmm,
et je peux en recevoir un ou deux de la France.
Okay.
Et c'était dans la famille. Maintenant, c'est beaucoup dans des résidences d'étudiants ou des résidences que la commune ou la ville va offrir aux jeunes parce que c'est plus difficile dans les familles. Mais tout se passe vraiment dans la municipalité qui reçoit le jeune. Quant au partenariat, bien, on avait avec Air Transat avant la pandémie. Ça n'existe plus maintenant. C'est vraiment par l'Office de franco-québécois pour la jeunesse. Pour les restaurants, non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est vraiment l'association Québec-France ou France-Québec qui prend en charge un peu l'accueil là, ou qui supervise l'accueil.
C'est ça, le récipiendaire, la personne récipiendaire vient. On va, par exemple, mettons, au Concorde, ici à Québec. Chacun paye son repas, mais l'association Québec-France-Québec, par exemple, paie le repas de la personne récipiendaire oui. et de la personne qui peut l'accompagner.
Pour le prix littéraire, oui.
Pour le prix littéraire. Petit, alors, voyez-vous, c'est... Puis là, comme si la personne se déplace à travers tout le Québec, mm-hmm. à certains endroits, elle est reçue dans les familles.
Oui.
Alors, donc, il n'y a pas de frais de... Et les personnes sont véhiculées par des bénévoles de l'association qui les transportent d'une ville à l'autre et de Québec à Montréal et... sur tout le parcours qu'ils
ont. Jusqu'à Gaspé.
Jusqu'à Gaspé, des...
ah. quelquefois.
Ou à Rouen ou Val-d'Or.
Il y a okay. toujours une, deux ou trois régions chaque année qui est visitée par okay. la personne récipiendaire. Donc, ça lui permet non seulement de faire la promotion de son livre, mais en même temps de faire un voyage pour connaître le Québec. Et certains centres commerciaux au Québec qui prête un local qui est vide, qui est vacant. Mm-hmm. Et il y a une petite réception littéraire là, qui se déroule. Une lecture, par exemple, d'une partie du livre, une présentation de l'auteur. C'est arrivé à plusieurs endroits où des centres commerciaux ont prêté comme ça, parce que ça attire l'achalandage. Alors, bon. Eux autres, ils ne nous chargent rien, mais ils reçoivent la personne.
J'ai toujours une petite question qui me reste là, dans la désignation de votre organisation. Québec, France, Québec. Pourquoi Québec deux fois?
Parce que est-ce que c'est Québec.
Est-ce que c'est pour avoir la majorité, le dessus sur la France?
Non. Non, c'est que les associations, c'est toutes des associations... À Québec-France.
Okay.
Mais s'ajoute Rive-Droite. Paul est président de l'Association Québec-France Rive-Droite. Il y en a une dans l'Outaouais, l'Association Québec-France Outaouais. Par exemple, la Cuivrée, l'Association Québec-France de l'Abitibi-Témiscamingue.
OK.
Celle du Bas-Saint-Laurent. Alors, à Québec, ben c'est Québec. Donc, ça, c'est répétitif, si vous voulez, pour cette raison-là.
Pour cette raison, OK.
C'est ça. Oui. Dans la création, bon, il y avait une seule association pour tout le Grand Québec, qui oui. était, je pense, Québec. Ensuite, il y a eu un très grand nombre. On était rendu à 450 membres, et c'était beaucoup trop. Donc, il y a eu un SMH. Il y a eu celle des seigneuries, qui couvrait plus Jacques-Cartier-Portneuf. Maintenant, c'est le nom qu'on lui donne. Et on a traversé le fleuve pour créer la rive droite, pour répartir le nombre de membres, tout simplement.
C'est ça.
OK.
Alors, voilà.
Oh. Écoutons les Cowboys fringants. Les étoiles filantes.
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. de la petite école et de la cour de récré. Dans les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit quel bon temps passe finalement, comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Mardi au jeudi, de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Funk Connection. Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchi.
Écoutons une fois de plus la poésie de Paul Lacasse.
Alors, le poème que je vous présente, il est tiré de mon dernier recueil, mon septième recueil, « Là-bas, j'irai encore », qui beaucoup fait référence à la nature. Là-bas, dans la nature, j'irai encore si je la respecte, si je cesse de la détruire. Alors, au Québec, on est privilégié cette année. Bien sûr, il y a les étoiles filantes qu'on peut voir. On peut aller au Mont-Mégantic, voir les Perséides. Et cette année, bientôt, au mois d'avril, il y aura une éclipse totale de soleil qui pourrait être vue dans certaines régions. Alors, et on a les aurores boréales. Les aurores boréales en hiver qu'on peut voir très, très fréquemment. Alors, voici aurores boréales. Sur la crête de l'horizon noir et dentelé, des feux follets se prennent pour l'aurore. Ils dansent et s'exaltent sur le fond du ciel sombre dans une cavalcade à nous tordre le cou. C'est l'épiphanie des aurores boréales. Ces fantômes célestes verdoient l'espace comme une prairie de printemps qui s'étale sous la force jaillissante de la sève et du soleil. Le ciel est vert, nos yeux flamboient et nos folies dansent d'émerveillement, emportées par ce manège effervescent. Nos pieds s'envolent légers vers les nuages. Et nos âmes se sentent convoquées à la fête. Nos êtres se transforment en lucioles débridées qui se confondent dans le balai endiablé du rideau chatoyant des aurores boréales.
Merci beaucoup, Paul. Maintenant, toi, agent, qui va nous parler des dossiers spécifiques, les rencontres poésie et musique, ou alors vous avez un autre sujet dont vous voulez entretenir notre auditoire?
Oui, certainement, avec plaisir. On a parlé beaucoup pendant l'émission des programmes qui sont géré en réciprocité avec la France, mais mm-hmm. aussi, on a des activités qui sont purement locales et des dossiers que l'on poursuit, qui sont locaux aussi, même si elles ont ces activités-là ou ces dossiers-là ont une certaine évocation, si vous voulez, un certain lien avec la France. Alors, un des dossiers importants que l'on mène actuellement, l'Association Québec-France-Québec qui mène ce dossier, c'est celui de Clément Gosselin. Je veux vous parler de ce dossier-là parce que il est actuellement à l'étude par le ministère de la Culture et des Communications. En effet, le 21 décembre 2022, un autre membre de mon conseil d'administration, M. Serge Pouliot, et moi-même, accompagnés de M. Jean-Claude Bélanger-Cyr, un auteur de plusieurs livres, ainsi que d'un membre de l'Association des familles Gosselin, avons déposé une requête en vue de désigner Clément Gosselin, personnage historique du Québec, en vertu de la loi sur le patrimoine. Le processus d'étude de cette requête devrait se terminer en juin prochain, alors que nous connaîtrons la décision du ministre. Nous avons reçu une lettre à cet effet cette semaine. Clément Gosselin, qui était-il? Pourquoi est-ce que cette démarche-là est entreprise? Clément Gosselin était un citoyen de la Nouvelle-France. Il est né à Sainte-Famille de l'île d'Orléans le 12 juin 1747 et est décédé le 9 mars 1816 dans l'État de New York. Clément Gosselin a servi comme éclaireur dans l'armée du lieutenant-général Montcalm, alors que son père, Gabriel, était capitaine dans l'armée de Montcalm, lors de la conquête en 1759. Après la conquête, Gabriel fut amené prisonnier en Angleterre, ce qui a déplu fortement au jeune Clément, qui n'avait à l'époque que 15 ans. avec la complicité de 8 femmes dans divers rameaux et villages de la Nouvelle-France. Il a réussi à rassembler au nez et à la barbe de l'armée britannique 386 miliciens et il a réussi à les amener à Boston, joindre les forces des 13 colonies américaines qui préparaient la guerre d'indépendance des États-Unis. Vous comprendrez tout de suite qu'il y avait dans cette initiative une contrepartie convenue avec George Washington. Nos ancêtres ne se sont pas croisés les bras après la conquête. Clément aide George et George aide Clément à libérer la Nouvelle-France de l'occupation de l'armée britannique. Ceci explique en bonne partie l'attaque et le siège de Québec de l'automne 1775 au printemps 1776 sous la direction d'Arnold et de Montgomery. Clément Gosselin a accompli en plus des missions d'espionnage pour le compte de George Washington, mais aussi du marquis de Lafayette. Il est venu ici en mission périlleuse jusqu'à Lotbinière, tout près de Québec. Nous avons des écrits qui démontrent clairement que l'issue de la bataille de Yorktown en Virginie, bataille décisive de la guerre d'indépendance des 13 colonies, disons-le, fut la victoire de l'armée du Congrès, et que Washington affirme que Gosselin y a fait une contribution déterminante. Il a même été blessé à cette occasion. J'invite les étudiants qui poursuivent une formation en histoire et en relations internationales à lire le livre publié à propos de Clément Gosselin par M. Gaston Deschênes, historien émérite de l'Assemblée nationale. Je l'ai avec moi, il s'intitule « Clément Gosselin, maître charpentier », alors c'était son métier d'origine, « espion et soldat de la Révolution américaine 1747-1816 ». Ça a été publié il y a 2 ans par... la Société d'histoire et de la généalogie de la Côte-Sud. Alors, vous pouvez en prendre note. Clément Gosselin, maître charpentier, espion et soldat de la Révolution américaine. Alors, je le répète pour que vous puissiez... sur Internet, je pense que vous pouvez taper Clément Gosselin et puis le livre va sortir.
OK.
Comme le sergent... Comme il avait rendu de grands services aux États-Unis, à peu près comme le sergent Léo Major qui s'est battu en Europe, Clément Gosselin a combattu sur un théâtre d'opérations militaires étrangers, mais en plus, il est venu combattre ici pour tenter de faire renaître la Nouvelle-France. Clément Gosselin a obtenu le grade de major de l'armée du Congrès grâce à George Washington, qui voulait lui assurer une pension et lui donner des terres dans l'État de New York. Alors, sa contribution a été assez importante pour obtenir l'acquiescement des 13 colonies qui étaient nécessaires pour qu'il obtienne ce grade et obtienne ses terres. Il est inhumé à Beekmantown, près de Plattsburgh, et en octobre 2022, on lui a élevé un monument à sa mémoire dans le cimetière où il a été inhumé. À cette époque, la frontière entre le Canada et les États-Unis passait là. Après ça, il y a eu des négociations après 1867 et la frontière passe 17 kilomètres plus au nord. Mais à cette époque-là, il s'est fait enterrer dos à la frontière. Alors, malgré sa vie très remplie, Clément Gosselin a quand même eu 3 épouses successivement, dont une est morte au combat avec lui. La seconde, la première qui est morte, lui a donné 4 enfants. La seconde, qui est décédée aussi par la suite, lui a donné 5 enfants. Et la dernière lui a donné 14 enfants. Donc, 23 enfants en tout. Et cette dernière-là est une Madame Dionne, et qui était l'ancêtre de la mère de René Lévesque. Alors, c'est assez spécial de pouvoir, parce qu'on a fait la généalogie aussi de ces gens-là, et on a fait toutes les études de titre. Je peux vous dire que la municipalité de Sainte-Famille de l'île d'Orléans, toute l'infrastructure municipale et l'infrastructure religieuse est construite sur la terre des Gosselins. Alors, la municipalité de Sainte-Famille de l'île d'Orléans a authentifié Clément Gosselin comme personnage historique et a envoyé son rapport au ministre de la Culture qui va, dans quelques mois, nous donner le résultat. Les Américains attendent la décision du ministre pour lui faire ériger un monument à Yorktown, en Virginie, dans le parc national historique des États-Unis, à côté de Washington et de Lafayette. Alors, c'est pas peu dire. Son régiment a gardé prisonnier pendant 10 ans 15 000 soldats britanniques. Et c'est pour ça que la guerre d'indépendance est terminée, que l'armée britannique a cessé ses combats. Et ça, c'est en Pennsylvanie, et le président des États-Unis a débloqué des millions il y a un an et demi pour qu'on sorte de terre les fondements de cette prison. Alors, les Américains prennent très au sérieux ce personnage et très au sérieux cette désignation de Clément Gosselin comme personnage historique. Voilà ce que j'avais à dire sur Clément Gosselin.
Écoutons, je voudrais voir la mère de Sylvie Tremblay.
Et ces falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses chevaux de brume, et ses oiseaux de lune et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir, où passent sans se voir des nuages de laine. Le soir de tempête dans la colère du ciel, entendre une baleine appeler son nom.
Je voudrais voir la mer et dans
Jean, pourrais-tu nous parler du congrès commun de septembre 2025 à Rimouski?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Mais assez rapidement pour que nous ayons le temps de conclure l'émission aussi.
Bien sûr. Mmh. Il y aura, comme je l'ai expliqué au début de l'émission, à tous les deux ans ou trois ans, un congrès commun est organisé par les deux réseaux. Et en 2025, aura lieu à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, le congrès commun Québec-France-France-Québec sur le thème « Les chemins qui marchent ».
OK.
Les chemins de la découverte et les chemins de la culture, enfin, les chemins de la vie. Et ce congrès va réunir plusieurs centaines de personnes. Nous avons des partenaires là-bas, la ville de Québec, de Rimouski. également, le conservatoire, l'Université du Québec qui est présente là-bas. Et on aura plusieurs participations de partenaires comme l'Office de tourisme du Bas-Saint-Laurent qui est allé en France il y a un mois et demi pour présenter à l'Assemblée générale de la Fédération France-Québec un vidéo qu'ils ont tourné pour illustrer, si vous voulez, montrer aux Français là-bas la vallée du Bas-Saint-Laurent et la ville de Rimouski. Okay. Alors, voilà ce que j'ai à dire. Alors, c'est du 18 au 21 septembre 2025.
Merci beaucoup. On va écouter Paul, mais avant d'écouter Paul, est-ce que les chemins qui marchent, ça ne fait pas un écho à la formule Québec, à la formule des premiers peuples?
Oui, autochtones.
Oui, qui désigne...
C'est le fleuve, en fait.
C'est un chemin.
On commence, il l'appelait le chemin qui marche parce que c'était la route des voyages. Et comme ça se tient à Rimouski, sur le bord du fleuve, et en collaboration avec la régionale de Gaspé également. Donc, on a voulu insérer le fleuve, et comme dit Jean aussi, les chemins de la culture, bon, les chemins de l'amitié, mais on part d'abord du fleuve. Et le fleuve est tellement important pour nous. On vient d'écouter Sylvie Tremblay, « Je voudrais voir la mer », mais quand on est rendu à Rimouski, à Matane, sur la côte nord, on l'appelle la mer, on l'appelle plus le fleuve tellement c'est immense.
Okay.
Et c'est un fleuve très particulier, le Saint-Laurent. Et c'est pour ça que je vais consacrer un recueil qui s'appelle « Errance fluviale », publié aux éditions de la Francophonie. Et j'espère bien pouvoir lire un poème.
Mais on t'écoute tout de suite, Paul.
Oui, alors celui-ci, bon, comme je dis, le fleuve rendu dans le bas du fleuve, c'est la mer. Alors, c'est un poème qui s'appelle « Sensations nordiques », qui se passe sur la côte nord, si on veut.
OK.
Mais c'est toujours la mer. La côte nord est un livre ouvert où se lisent la patience et le temps. Car là-bas, le temps ne compte pas. Quelques minutieux villages, deux ou trois villes, une route qui n'en finit plus de s'étirer le long des tourbières à Chicouté. Le bateau qui apporte marchandises et nouvelles égrène le temps d'escale en escale. Un grand vol d'oies sauvages en migration rythme le jour qui fuit. La chevelure sombre et drue des épinettes noires grappille des rares chaleurs de ce monde inhospitalier. De larges deltas s'y enrobent jalousement dans des tonnes infinies de sable fin. Là-bas, la mer immense gronde en s'empêtrant dans les rochers. Et le vent du nord vient goûter la douceur salée du vent du large sous le regard amusé des dauphins.
Merci beaucoup, Paul. Notre émission tire à sa fin. Mais nous n'allons pas la clôturer sans les conclusions de nos invités du jour. Mais je commencerai par rappeler que un très grand homme, un très grand Canadien, une très grande personne, nous vient de nous quitter, je crois, hier. Monsieur Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada.
Et de la Côte-Nord.
Voilà, c'est ça, effectivement. L'homme du libre-échange, l'homme de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, l'homme qui a réhabilité Mandela. Alors, il y en a qui construisent des murs, il y en a d'autres qui construisent des ponts. Nos invités du jour construisent des ponts et font des liens. Je vous laisse la parole pour conclure.
Alors, nous voulons offrir à la famille de M. Mulroney et à ses proches nos plus sincères condoléances de la part de notre association et du réseau Québec-France francophonie. M. Mulroney était un semeur d'amitié. Et c'est ce que j'espère qu'on va retenir de lui surtout et qu'on n'oubliera pas. J'ai une petite annonce en terminant. Le vendredi 17 mai, au Cercle de la Garnison, et j'invite la communauté universitaire à y participer, il y aura une conférence sur le peintre Jean-Paul Lemieux, dont cette année on fête le 100e anniversaire de sa naissance. Le conférencier sur M. Gaétan Brulotte, un auteur, l'auteur du livre « L'univers de Jean-Paul Lemieux », c'est un universitaire, M. Brulotte, très réputé à travers le monde. Alors, ce sera sûrement une conférence qui sera de très grand intérêt. Alors, je vous invite, c'est à 14 heures au Cercle La Garnison, le vendredi après-midi, 17 mai 2024.
Okay. Merci. Et je vous rappelle, je vous invite à rester sur cette... idée très importante que Québec France, c'est une association d'amitié. Comme tu dis si justement, Augustin, nous créons, nous essayons de créer des ponts. Et à ma façon également personnelle, par la publication de la poésie, j'essaie de rassembler les gens, de donner de l'espoir aux gens. Tous mes livres se terminent sur une note d'espoir, même si la guerre est un moment très triste en ce moment. Et je vous invite à venir au Salon du livre du 10 au 14 avril prochain, où je serai présent pour l'été interdit. Alors, est-ce qu'il y aura encore un été? Est-ce que les guerres vont assombrir le ciel à ce point que nos enfants ne naîtront pas dans un monde favorable? Alors, mais il y a toujours une aube d'espoir qui se profile à l'horizon. Alors, c'est un rendez-vous. Ce sera également un rendez-vous le 20 avril à la librairie de la Liberté, où je lancerai mon dernier recueil. Là-bas, j'irai encore.
OK. Finissons voilà. Avec un monument de la culture québécoise, Félix Leclerc, « Moi, mes souliers ».
Mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, payé le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour ces sœurs ont usé les planchers
peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
Ça a été comme toujours un immense plaisir de passer les deux heures qui viennent de s'écouler avec vous. Bon samedi et à samedi prochain.